Chapitre 5. Le fils de la comtesse étant complètement rétabli, on était arrivé au jour fixé pour la soirée que cette noble dame donnait pour la réception de Maria. Quelques invités étaient déjà réunis quand Raphaël Arias entra précipitamment. « Cousine, dit-il, je viens te demander une faveur. Si tu me la refuses, je vais tout droit me jeter la tête la première dans mon lit sous prétexte d'une affreuse migraine. » « Mon Dieu !» répliqua la comtesse, « que faut-il que je fasse pour éviter un si grand malheur ?»« Tu vas le savoir, » reprit Raphaël. « J'ai reçu hier une lettre d'un de mes camarades d'ambassade, le vicomte de Saint-Léger. »« Mets de côté le saint et le vicomte et laisse Léger tout court, » dit le général. « Eh bien, dit Raphaël, mon ami, qui, suivant mon oncle, n'est ni vicomte ni saint, me recommande un prince italien. » « Allons, un prince à présent, » dit le général d'un ton d'ironie. « Pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom? C'est probablement quelque carbonaro, quelque sectaire, un véritable fléau. Et d'où est ce prince ?»« Je l'ignore, » répondit Raphaël. « Ce que je sais, c'est que voici ce que dit la lettre. Vous m'obligerez beaucoup en donnant à celui que je vous recommande l'occasion de voir les femmes les plus belles et les plus aimables, les réunions les plus distinguées et les antiquités les plus remarquables de la belle Séville, ce jardin des Hespérides. « Il aura voulu dire « jardin de l'Alcazar », observa la marquise. « C'est probable, dit Raphaël, quand je me vis chargé de cette tâche, sans savoir à quel saint me recommander, il me vint l'idée lumineuse d'avoir recours à ma cousine et de lui demander la permission d'amener le prince à sa soirée, car de cette manière, il pourra faire connaissance avec les femmes les plus belles et les plus aimables, avec la meilleure société et, ajouta-t-il en montrant du doigt la table de jeu, avec les antiquités les plus remarquables de ces villes. « Songe que ma mère est là !» murmura la comtesse en riant malgré elle. « Tu es un impertinent !» Et elle ajouta à haute voix, « J'aurai beaucoup de plaisir à le recevoir !» « Bien !» s'écria le général en mêlant brusquement les cartes. « Gâtez ces vagabonds, ouvrez-leur les portes à deux battants. Ils s'amuseront à vos dépens et se moqueront de vous. »« Soyez sûr, mon oncle, que nous prenons bien notre revanche, » répondit Raphaël. « Et il est certain qu'ils s'y prêtent admirablement. Quelques-uns viennent dans la seule intention de chercher des aventures, persuadés que l'Espagne est la terre classique de cette sorte d'incident. » L'un d'eux, l'année dernière, expia assez durement cette monomanie. C'était un Irlandais, parent de Lord W. « Oui, comme moi du Grand Turc, » dit le général. Les travers d'esprit du héros de la Manche s'étaient emparés de mon Irlandais, que j'appellerai Ver Erin, ayant oublié son véritable nom. Un soir, nous nous promenions sur la place du Duc. Le ciel se couvrit et un orage éclata tout à coup. Moi, je m'occupais de chercher un abri, mais lui, il continua à se promener parce qu'il avait envie de voir un orage espagnol. À l'observation que je lui fis qu'il allait se faire tremper jusqu'aux os, il me répondit que tout ce qu'il avait sur lui était waterproof. Le chapeau, le manteau, le pantalon, les gants, les bottes, tout enfin. Je l'abandonnai à son sort. « Est-ce croyable, Raphaël ? » dit la comtesse. « Il y a plus, c'est probable, dit le général, car il n'y a pas un Anglais qui aille se mettre au lit sans avoir fait quelque extravagance. « Continue, Raphaël, continue, mon enfant, car je prévois que cet imprudent va apprendre par lui-même qu'on ne doit pas tenter Dieu. » « Ainsi donc, mon Erin, poursuivit Raphaël, restez là à recevoir la pluie comme l'arche de Noé, quand la foudre frappa l'arbre sous lequel il était assis. » « Allons, allons !» crièrent tous les auditeurs. « C'est un conte, c'est une histoire à la Raphaël. »« C'est aussi véritable qu'il est vrai que j'existe !» s'écria celui-ci un peu piqué. « Informez-vous-en, si vous le voulez, à plus de 100 personnes qui ont assisté à cette scène. J'affirme qu'un acacia tout entier s'abattit sur mon pauvre Erin. Heureusement, il était placé de telle manière qu'il fut préservé du choc du tronc de l'arbre, mais il resta pris dans les branches comme un oiseau dans une cage. Il avait beau crier, prodiguer son juron national et offrir des billets de banque à ceux qui viendraient à son secours, il lui fallut, dans sa prison végétale, recevoir tout ce déluge. Enfin, l'orage passa et le monde reparut dans la rue. On accourut à son aide, mais la chose n'était pas des plus aisées. Il fallut apporter des scies et des haches et couper les plus grosses branches. À mesure que tombaient les parois de sa prison, on découvrait petit à petit la triste figure de cet enfant de l'Irlande. Tous les waterproofs avaient fait fiasco. Ses bras et ses cheveux, de même que les bords du chapeau, s'inclinaient tout allongés perpendiculairement vers la terre. Il avait l'air d'un navire sous voile par un calme plat. Imaginez-vous les bons mots et les sarcasmes que faisaient pleuvoir sur le pauvre Erin nos gens de ces villes si facétieux et si moqueurs par nature. Le brave homme n'eut pas seulement à subir l'effroi et l'averse, mais encore l'explosion d'un rire homérique dont son pays n'avait jamais pu lui donner la moindre idée. J'avoue à ma honte qu'étant revenu avec l'intention de le rejoindre, je n'en eus pas le courage et je me sauvai. « Et cette aventure n'eut pas de conséquences plus graves ?» demanda la marquise. « Cela ne le porta pas à réfléchir ?» Cet accident n'eut aucune conséquence, ni dans l'ordre physique, ni dans l'ordre moral. Les Anglais ont sept vies comme les chats. L'unique résultat fut de détruire sa confiance dans les waterproofs. Mais ce ne fut pas l'aventure la plus tragique de mon héros. Il avait été attiré en Espagne par une passion décidée pour les bandits. Il voulait en voir à tout prix. Le plaisir d'être volé était sa lubie, son caprice, le but de son voyage. Il aurait donné 10 000 sacs de pommes de terre pour voir de près José Maria dans son beau costume andalou avec sa garniture de boutons en or massif de 4 douros pièces. Il portait exclusivement à son intention un poignard à manche d'or et une paire de pistolets de menton. « Armez nos ennemis !» s'écria le général. « C'est là leur manie. Toujours les mêmes. » Voulant se rendre à Madrid, poursuivit Raphaël, et sachant que la diligence avait le mauvais goût de se faire suivre d'une escorte, il prit le parti de faire le voyage dans la voiture du courrier. Tous mes raisonnements pour l'en détourner furent inutiles. Il partit en effet, et, un peu au-delà de Cordoue, ses désirs furent exaucés. Il rencontra des brigands, mais non des brigands de boutons, non des voleurs fashionables comme le José Maria, qui avait l'air tout couvert d'or quand on le voyait monter sur son brillant alezan. C'étaient des bandits à pied communs et vulgaires. Vous savez ce que c'est en Angleterre que d'être vulgaire. Il n'y a pas de lépreux, de pestiférés qui inspire autant d'horreur à un Anglais que ce qui est vulgaire. Vulgaire. À ce mot, Albion se couvre de son plus épais brouillard. Les dandys tombent dans le spleen le plus sombre. Les ladies sont assiégées par les diables bleus, les missis ont des nausées et les maudits des attaques de nerfs. Il n'est donc pas extraordinaire qu'Erin se soit persuadé qu'il serait déshonoré s'il se laissait voler par des bandits vulgaires. Aussi se défendit-il comme un lion. Cependant, il ne défendait pas son trésor, car il me l'avait confié jusqu'à son retour, et d'ailleurs, ce qu'il en estimait le plus consistait dans une branche de saule qui couvrait le tombeau de Napoléon, un soulier de satin d'une danseuse, grand comme une coquille de noix, et une collection de caricatures de son oncle, Lord W. Cela peint bien l'homme, dit le général. Mais je ne cesse de bavarder, dit Raphaël. Adieu, cousine, je vais et je reviens de suite. Comment, dit la comtesse, tu pars en laissant le pauvre Erin entre les mains des voleurs? Il faut absolument que tu finisses ton histoire. Eh bien, continua Raphaël, je vous dirai en peu de mots que les brigands exaspérés l'accablèrent de coups et le laissèrent sans connaissance, attaché à un arbre. Il fut trouvé là par une pauvre femme qui le fit porter dans sa chaumière et le soigna comme une mère pendant une maladie qui fut la conséquence de son aventure. Je fus quelque temps sans avoir de ses nouvelles. Et comme on dit vulgairement que l'espérance était verte et qu'elle a été mangée par un âne, je croyais déjà que le même malheur était arrivé à mon ver Erin quand il m'écrivit en me racontant ce qui lui était arrivé. Il me chargeait de donner 10 000 réaux à la femme qu'il avait sauvée et soignée sans avoir la moindre idée de ce qu'il pouvait être, car son vêtement, quand on le découvrit, était le même que lorsqu'il vint au monde. La récompense était honorable, comme vous voyez, car il faut être juste, on ne peut nier que les Anglais soient généreux. Mais voilà Polo, dans les yeux duquel je lis une élégie. Le prince m'attend, je m'en vais en courant quand je devrais tomber. En disant ces mots, il disparut. « Jésus !» dit la marquise, « Raphaël me donne le mal de mer. On dirait qu'il est composé de queue de lézard. Il remue tant, il gesticule tant, il parle tellement sans s'arrêter et avec tant de hâte que je perds la moitié de ce qu'il dit. » « Tu perds peu de choses, » dit le général. « Eh bien, moi, » dit la comtesse, « j'aimerais Raphaël à cause de l'amusement qu'il me donne, si je ne l'aimais déjà tant pour ses bonnes qualités. » « Ma chère Grâce, » dit Héloïse en entrant et en embrassant la comtesse, « voici le voyage de Dumas dans le Midi de la France. » La comtesse prit les volumes. Paulo et Héloïse firent une dissertation sur les œuvres de cet écrivain, dissertation dont nous ferons grâce au lecteur, qui nous en sera certainement reconnaissant. « Pauvre Dumas !» dit la comtesse au colonel. « Comment pauvre ? » s'écria le colonel. « Vous appelez pauvre celui qui est riche, qui est un personnage et que tout le monde fête, encense et applaudit ? Ou bien dites-vous cela parce que parfois on le critique ?»« Parce qu'on le critique, » dit la comtesse. « Non, certainement, et moi-même je prends quelquefois la liberté de le faire. Tout homme qui se présente au public lui donne ce droit. Je ne l'appelle pas pauvre en l'entendant critiquer, mais je le plains quand j'entends certains éloges qu'on fait de lui. » « Et pourquoi, comtesse ? L'éloge est toujours flatteur. »« Je ne pourrais bien m'expliquer que par une comparaison, » dit la comtesse. « Il y a quelque temps, nous reçûmes la visite d'une de nos parentes de Xérès, femme fort pieuse et dont le mari aime beaucoup les arts. La première chose que je pensais à leur montrer fut, bien entendu, notre belle cathédrale. Nous fûmes rejoints en route, sans pouvoir nous en débarrasser, par un autre habitant de Xérès, homme fort riche mais vulgaire, et nous fûmes obligés de nous résigner à le garder dans notre compagnie. En entrant dans ce monument sans pareil, ma cousine leva la tête, croisa les mains, traversa rapidement la nef immense et s'agenouilla en fondant en larmes au pied du maître-autel. Son mari resta comme plongé dans l'extase, sans pouvoir faire un pas. Mais le gros Richard s'écria « Belle propriété, comme cela ferait un bel entrepôt !» « Avez-vous compris mon idée ?»« Sans doute, » dit le colonel en riant, « un sot éloge est pire qu'une critique, et comme dit la fable d'Iriarte, si le sage n'approuve pas, c'est fâcheux, mais si le sot applaudit, c'est bien pis. » Du reste, la petite histoire ne manque ni de sel ni de poivre. « Je le regretterai beaucoup, » dit la comtesse. « C'est un souvenir qui m'est revenu en attendant faire l'apologie des œuvres de Dumas. Tant d'exclamations vaines et pas un mot de louange pour son histoire de Madeleine et de Lazare, dont je ne puis lire un passage sans pleurer. »« Comtesse, » dit le colonel, « si Dumas vient quelques jours en Espagne, je m'engage à l'amener à vos pieds pour qu'il vous remercie de la manière dont vous jugez ses ouvrages. N'aimeriez-vous pas le connaître ?» En général, la connaissance des auteurs d'un grand mérite ne laisse pas que d'avoir des inconvénients. Et pourquoi, comtesse ? Parce que, le plus souvent, l'auteur y perd quelque chose de son prestige. Un de mes amis, homme de beaucoup d'esprit, disait que les hommes sont le contraire des statues parce que celles-ci paraissent plus grandes et ceux-là plus petits à mesure qu'on les approche de plus près. Quant à moi, si jamais je deviens auteur, car nous avons tous un peu de ce qui fait le poète et le fou, j'aurai du moins l'avantage qu'on m'entendra sans me voir, grâce à ma petitesse, au peu de brillant de ma plume et à la distance. Est-ce que vous croyez que l'auteur doit être un des héros de ses créations ? Non, mais je craindrais de lui voir donner un démenti aux idées et aux sentiments qu'il exprime, et alors le charme s'évanouirait, parce qu'en lisant ce qui m'aurait ravi, je ne pourrais m'ôter de l'esprit que l'auteur écrit avec sa tête et non avec son cœur. « Comme ces Français écrivent bien !» disait au même moment Héloïse en résumant la dissertation littéraire que nous venons de rapporter. « Qu'y a-t-il donc que ne fasse pas bien ces enfants de la liberté ?» répondit Paulo. « Mais, mademoiselle, dit le général, pourquoi donc ne lisez-vous pas des livres espagnols ?» Parce que tout ce qui est espagnol porte le cachet d'une stupidité grossière, répondit Héloïse. Dans toutes les branches de l'activité humaine, dans toutes les conceptions, nous sommes arriérés d'une manière déplorable. Que voulez-vous qu'écrive dans ce malheureux pays un écrivain de talent ? Ajouta Paul un peu exalté. Puisque nous ne sommes à la hauteur de rien et que nous ne pouvons faire autre chose que d'imiter. Comment pourrions-nous peindre notre pays et nos mœurs si nous n'y trouvons rien d'élégant, de bon ou de caractéristique ? À moins, dit Héloïse, que vous ne célébriez avec les Allemands la fleur d'oranger et les oranges, avec les Français le boléro, avec les Anglais le vin de Xérès. Ah, Héloïse ! S'écria Polo tout enthousiasmé. Cette plaisanterie est si spirituelle que si elle n'est pas française, elle mérite de l'être. Polo, dans ce qu'il disait là, plagiait, suivant son habitude, un mot français bien connu. Heureusement, on venait de faire un mauvais coup au général à la table du Trésillon, ce qui l'empêcha d'entendre cet intéressant dialogue. Dans ce moment, Raphaël fit son entrée avec le prince, qu'il reçut avec son affabilité ordinaire, mais sans se lever, suivant l'usage espagnol. Le prince était grand et élancé. Il annonçait 45 ans, et bien que prince, il avait peu de distinction dans sa personne et dans ses manières. La réunion se trouva alors au complet, et tous attendaient avec impatience la cantatrice annoncée, non sans conserver quelques doutes au sujet de son mérite. Le major Fly se balançait sur sa chaise auprès des jeunes filles en leur envoyant des œillades aussi meurtrières que les coups de bouton de son fleuret. Sir John tenait son lorgnon braqué sur Rita qui ne s'en apercevait même pas. Le baron, assis auprès d'un vieil auditeur, lui demandait si les morts blanchissaient leur maison avec de la chaux. « Je manque de renseignements pour vous répondre, » répliqua le magistrat. C'est un point qui n'a pas mérité d'appeler l'attention de Zuniga, ni de Ponce, ni de Don Antonio Morales, ni de Rodrigo Caro. Quel ignorant, pensa le baron. Quelle sotte question, pensa l'auditeur. Vous avez une cousine charmante, dit le prince à Raphaël. Oui, répondit celui-ci, c'est une ondine qui vit dans l'eau de rose et qui, si elle n'a pas reçu son âme de l'amour, l'a reçue d'un ange. « Et ce général qui est là à jouer aux cartes et qui a l'air si distingué ?»« C'est le Nestor en retraite de l'armée. Vous ne possédez pas à Pompéi d'antiquité mieux conservée. »« Et la dame avec laquelle il joue ?»« C'est sa sœur, la marquise de Guadalcunal, une espèce d'Escurial. »« C'est un solide composé de sentiments monarchiques et monaco avec un cœur qui est comme le panthéon des rois détrônés. » En ce moment, on entendit un grand bruit. Il était causé par le major qui, en se levant pour aller rejoindre Raphaël, avait fait rouler à terre un vase de fleurs. « Voilà, dit Raphaël, le major qui annonce son arrivée. Il vient sans doute soupirer comme un orgue à cause du peu de cas que les dames font de lui. « Il faut qu'elle soit difficile, dit le prince, car le major a une belle figure. » « Je ne dis pas le contraire, dit Raphaël, c'est le plus beau Samson du monde. Mais d'abord, il a sa Dalila, qui va bientôt devenir sa femme, grâce aux millions que son père a gagnés avec le thé et l'opium. Elle l'attend au milieu des brouillards de son île, tandis que lui se divertit sous le beau ciel de l'Andalousie. Du reste, prince, les étrangers qui viennent en Espagne comptent surtout, parmi les plaisirs dont ils se proposent de jouir, le beau climat, les courses de taureaux, les oranges et le boléro, et souvent ils s'en vont déçus. Combien de plaintes ai-je entendues de ceux qui sont entrés comme César et sont sortis comme Darius ? Pendant ce temps-là, le baron s'était approché de la table et regardait jouer. « Madame, dit-il en parlant à la marquise, est la mère de... »«
De ma fille, oui, monsieur, répondit la marquise. »
Rita laissa échapper un de ces éclats de rire soudains auxquels elle était sujette. « Baron, dit la comtesse, dont le sofa était près de la table de jeu, aimez-vous la musique ?»«
Oui, madame, je l'admire et la respecte, c'est-à-dire la musique profonde, savante, sérieuse, la musique philosophique, telle que l'ont comprise Haydn, Mozart et Beethoven. »
« Que dit-il donc ? » demanda le général à Raphaël, qui s'était avancé pour saluer Rita.
musique sérieuse et savante, la philosophie du tralala. Comment ose-t-on dire de pareilles extravagances devant des gens sensés ? Je croyais que les Français n'aimaient que les romances et les contredanses.
Que voulez-vous, mon oncle ? Répondit Arias. Les sylphes de Lutèce se sont changés en gnomes teutoniques de la forêt noire.
Ils n'en sont pas devenus plus aimables pour cela, ajouta la marquise.
Raphaël, fuyant le major, se faufila parmi les groupes des invités. Il arriva à celui que formaient les jeunes filles, dont plusieurs étaient ses parentes. Il en était fort bien vu, mais comme il les négligeait pour s'occuper de ceux qui lui étaient recommandés, elles avaient formé une conspiration contre lui et voulaient se venger. À peine fut-il près d'elles que toutes devinrent graves et muettes.
« Est-ce que je me suis changé sans le savoir ?» dit Arias, « en tête de méduse ?»«
Tiens, c'est toi ?» dit une des conjurées.
« Mais Clarita, il me semble que oui, » répondit Raphaël.
« C'est qu'il y a si longtemps que je ne t'ai vu que je ne te reconnaissais pas. Il me semble que tu as vieilli. Comment as-tu pu te séparer de tes étrangers ?»«
Mes étrangers, » répondit Arias, « je renonce à cette propriété. » Quant à avoir vieilli, Clarita, quand je suis née, le siècle était déjà majeur. Par conséquent, tu peux toi-même faire le compte de mes années.
Ce sont les soucis et les fatigues que te donnent tes recommandés qui t'ont vieilli ainsi.
Il y en a qui prétendent, ajouta une autre jeune fille, que les étrangers font une souscription pour t'élever une statue.
Et que la reine va te créer marquis d'Italica, dit une autre.
Et que les dalles de l'Alcazar sont usées par tes bottes.
Et que le Saint-Félix de Murillo te connaît de vue et te donne sa bénédiction quand tu lui amènes un nouvel admirateur.
Mesdemoiselles, s'écria Raphaël, c'est donc une déclaration de guerre, une conspiration? Qu'est-ce que cela veut dire?
Toutes alors se mirent à l'interpeller avec la rapidité d'un feu de fil.
Mon Dieu, vous sentez le charbon de terre, Arias.
« Quand tu parles, Arias, tu as un drôle d'accent. »«
Arias, où avez-vous pris ces mauvaises façons ?»«
Arias, tes cheveux deviennent blonds. »«
Raphaël, chante cela au baron. »«
Quand le roi de France joue du violon, les Français disent « Oui, 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 oui !»»«
Arias, lui dit Polo, vous avez l'air d'un ours au milieu d'un essaim d'abeilles. » »«
La comparaison, dit Arias, n'est pas très poétique, quoiqu'elle vienne d'un disciple des neuf sœurs. Apollon refusera d'être votre homonyme. Cependant, restez comme une rose au milieu de ces abeilles et prodiguez-leur votre mère iblique, tandis que je vais chercher un parapluie pour m'abriter de l'averse. »
Au même moment, ceux des invités qui se trouvaient près de la porte de la cour se rangèrent sur deux files pour laisser passer Maria, que le duc conduisait par la main. Stein les suivait.